Vous écoutez RTL. C'est l'été.
C'est l'été.
Laissez-vous tenter sur RTL.
Allez, on se régale. Je salue évidemment d'abord Anthony Martin. Bonjour.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Et puis le reste de l'équipe, bonjour.
Bonjour.
Dans un instant, qui va nous parler de sa voix dans notre saga Il y a de la voix, Steven Bellery.
L'un des vibratos les plus connus de la chanson, Véronique Sanson.
Et si on relisait un classique de notre littérature, Bernard Lehu.
Eh bien, le dernier de cette série d'été, Zazie dans le métro de Raymond Queneau.
Une nouvelle séance de secrets de producteurs sur le tournage de quel film nous emmenez-vous aujourd'hui, Stéphane Boutsock.
Je vous embarque pour un voyage sur toutes les mers du globe à bord de l'Odyssée.
Oh chouette. Et j'ajouterai à ce menu du jour une pépite et un duo.
Laissez-vous tenter tout l'été avec Anthony Martin sur RTL.
Allez, musique, et c'est donc la grande Véronique Sanson qui se confie dans notre rendez-vous. Il y a de la voix, Steven.
Oui, Véronique Sanson qui n'en finit pas de parcourir la France après l'immense succès de sa tournée magique Les Années Américaines. Elle a publié à l'automne 2016 Digne Dingue, donc un 15e album très réussi. Oh. Un disque qu'elle est partie défendre dans la foulée sur scène, puis elle publiera dans pile un mois, le 21 septembre, Duo Volatile, collection de reprises de ses plus grands succès avec ses amis comme Patrick Bruel, Michel Jonas, Bernard Lavilliers, Eddy Mitchell ou Alain Souchon. Il y a de la voix aujourd'hui avec Madame Véronique Sanson.
Quand j'étais petite, 14 ou 15 ans, et que j'ai commencé à chanter, j'avais une voix très linéaire, comme les Brésiliens par exemple, qui vibrent pas. Et moi, mon rêve, c'était d'avoir un vibrato. Et je ne savais absolument pas comment faire.
Le matin, on ira voir l'eau de Bayeux. Il n'y a pas d'ouragan.
Et j'écoutais Dionne Warwick, j'écoutais Aretha Franklin, j'écoutais tous les rhythm blues et tout le monde vibrait super bien et tout ça. Et je me disais comment faire. Et puis j'ai commencé à m'entraîner à vibrer à la croche, ce qui est pas beau du tout. Et d'ailleurs, quand je réécoute mes premiers albums, j'aime pas, même si j'ai plus d'aigus que maintenant, ça fait et c'est insupportable pour moi de les écouter. Même si elle est plus grave, plus rauque, eh ben j'aime les mieux maintenant.
Si je sais que tu m'aimes la vie, que tu aimes au fond de moi, me donne tous ces emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts.
Et c'est difficile de trouver sa voix par le biais de sa voix au X, et je pense que c'est le temps qui fait tout à l'affaire.
C'est vrai que le théâtre japonais vous a inspiré pour trouver ce vibrato?
Sûrement, parce que moi j'ai vécu au Japon avec mes parents dans les années 70, et je suis allée voir Kabuki, un autre truc, ils font pire que moi. Mais je me suis dit, quand même, sûrement ça m'a influencé inconsciemment.
Vous avez des voix repères, des voix qui vous ont nourri, ému quand vous êtes gamine?
Toutes les blacks américaines, évidemment. Et puis aussi, Joni Mitchell, elle a une voix extraordinaire.
Don't it always seem to go? You don't know what you've got till it's gone. The paradise, a parking lot.
Personne ne me disait que je chantais bien. Moi, ce qui m'importait, c'est la musique, les harmonies, les structures des chansons. Et je me disais, ben, peut-être un jour j'y arriverai. Vraiment avec rage. J'avais la rage d'arriver à ce que ma voix me plaise. Alors je me suis attelée à ça pendant longtemps. C'est juste quelqu'un qui vient vous visiter et qui vous dit bonjour. Et si vous avez envie de lui dire bonjour, vous dites bonjour. Et je suis tellement contente de vous connaître. Mais c'est pas intellectuel, ça. C'est juste émotionnel.
Quand je n'aurai plus le temps de trouver tout le temps du courage. Quand j'aurai mis 20 ans à voir que tout était mirage. Je tire ma révérence.
Il y a un truc très important, c'est le phrasé, la manière de prononcer les mots, surtout en français, parce que c'est dur d'écrire du rock en français, c'est dur d'écrire de la pop en français, parce qu'il faut le faire sonner, ce truc-là. Il faut servir beaucoup des D, des V, des T, il faut que ce soit percussif.
Hey, hey, hey.
tellement prétentiaire et prétentieux de dire « oui, j'ai un don », c'est quelque chose qui vous arrive en pleine figure comme ça.
Est-ce que vous aimez votre voix ?
Oh, ça dépend des jours. Il y a des fois où je l'aime pas. Elle est nasillarde, elle est trop ci, trop ça, pas assez ci, pas assez ça. Non, j'aime pas ma voix tout le temps. Hein. Quelquefois, je me dis « ah oui, là, cette chanson, je l'ai bien chantée ». Et puis, quelquefois, j'ai dit « oh là là, mais quelle horreur, mais quoi, je parle à ma chanson, je dis comment j'ai pu te massacrer comme ça ». C'est tout simplement quelque chose d'irréel, d'intouchable. On se dit, bah alors là, est-ce que je chante bien? On fait tout pour, hein. Bien sûr. Et quelquefois, on se rate et on se plante. Et puis, quelquefois, un miracle. J'ai l'impression d'avoir bien chanté ce soir.
Et je l'ai conquis toute seule. Il m'a offert toutes ses nuits. Je crois que j'ai tout pris. Que j'ai tout pris. Besoin de personne.
Voilà un invité auprès de Véronique Sanson, un duo qui va vite rejoindre la collection de notre jukebox. Sanson et Christophe Maé, vous avez reconnu sa voix. Besoin de personne, c'est un extrait de Duo Volatile, le prochain album de Véronique Sanson à paraître le mois prochain.
Ouais,
on en reparlera. Hein.
Évidemment, puisque Véronique Sanson chantera le 7 septembre à la Foire en scène de Châlons en Champagne, les 21 et 22 novembre à Lyon et du 18 au 22 décembre, salle Playel à Paris. Il y aura peut-être quelques invités.
Et on connaît désormais les secrets du fameux vibrato de Véronique Sanson. Elle nous a tout raconté. Puis alors, quelle maîtrise de son art. Voilà ce qui ressort de cet entretien. Même si tout ça, nous dit Sanson, est juste émotionnel. Merci Steven. Les confidences d'une autre voix dans Il y a de la voix, dès demain. Passons à présent par notre bibliothèque de l'été, Bernard Lehu. Et cette semaine, dans la série des classiques, Zazie dans le métro, de Raymond Queneau.
Et alors, que vous ayez lu ou pas Zazie dans le métro, vous en connaissez forcément au moins une réplique.
Ah oui, c'est vrai.
Tu causes, c'est tout ce que tu sais faire. Ben voilà, c'est ça. La marque des livres entrés au patrimoine, dont la postérité est assurée pour les siècles des siècles. Amen. Ce qui doit réjouir à titre posthume son auteur, Raymond Queneau, grand farceur littéraire et jongleur de mots. L'idée de départ de son livre le plus célèbre est on ne peut plus simple. Écoutons Queneau en parler lors de la sortie de Zazie en 1959.
C'est une dame qui amène sa petite fille à Paris. De la province, c'est une petite provinciale. Et il la confie à son oncle.
Mais d'où qui pue donc tant ? Pas possible, il se nettoie jamais.
Ça aussi, d'où qui pue donc tant, on le retient. Mais j'ai reconnu la voix de Philippe Noiret, et c'est lui qui dit ça. Hein ?
Mais oui, dans la version filmée tournée par Louis Malle, un an après l'apparition de Zazie dans le métro. Zazie, c'est Zazie Lalochère, 12 ans, la langue bien pendue, un irrésistible mélange d'ingénuité et d'insolence. Et en compagnie de l'oncle Gabriel, Philippe Noiret, donc, homosexuel, comme elle dit, et danseur travesti la nuit à Montmartre, et propriétaire du perroquet La Verdure. Tu causes, c'est tout ce que tu sais faire. C'est lui. La gamine, donc, va vivre mille aventures dans Paris, mais ne prendra jamais le métro, puisqu'il est en grève, logique. Drôlatique roman d'initiation, Zazie dans le métro, c'est aussi et surtout une écriture en liberté. Queneau joue avec les écarts de langage, les néologismes, l'orthographe, une joyeuse inventivité à laquelle a su rester fidèle le film quand on a tiré donc Louis Malle.
Moi, j'irai à l'école jusqu'à 65 ans.
Jusqu'à 65 ans ?
Oui. Institutrice.
C'est pas un mauvais métier. Il y a la retraite.
Retraite mon cul. Moi, c'est pas pour la retraite.
Mais alors, pourquoi que tu veux l'être institutrice?
Pour faire chier les mômes. C'est car mon âge dans 10 ans, dans 20 ans, dans 5 ans, dans 1000 ans. Toujours des gosses à emmerder. J'arrive pas à se compter avec elles. J'en ferai lécher le parquet. J'en ferai manger l'éponge des tableaux noirs. J'en renfoncerai les compas dans le derrière. J'en botterai les fesses. Parce que j'aurai des bottes en hiver, avec de grands éperons pour leur larder la peau du derche.
Tu sais, d'après ce que disent les journaux, c'est pas du tout ça l'éducation moderne. On va plutôt vers la douceur, la gentillesse... La compréhension.
Voilà. Non, pas vieilli.
Quel duo, Philippe Noiret. Ouais.
Catherine de Mongeau qui a fait 4 films et qui est devenue enseignante après.
Qui a disparu du monde du cinéma. Et donc, cette verve, eh bien, on la retrouve, bien sûr, celle de Zazie dans le métro, dans le film, et le livre à lire ou à relire chez Folio.
Merci Bernard d'être allé rechercher ce livre dans notre bibliothèque idéale.
C'est l'été. C'est l'été. Laissez-vous tenter sur RTL.
On retrouve Anthony Martin, bien sûr.
Et avec Stéphane Boutsock et notre rendez-vous ciné secret de producteur, consacré aujourd'hui à un sublime voyage. Sur et sous les mers du globe, le producteur Marc Missonnier nous raconte en effet l'Odyssée, le film de Jérôme Salle qui retrace une partie de la vie du commandant Cousteau, Stéphane.
Et plus particulièrement ses relations compliquées avec ses fils Philippe et Jean-Michel, ou sa femme Simone, lucide et lassée des aventures extra-conjugales de Cousteau, ou Cousteau si vous me permettez. Lambert Wilson, Audrey Tautou, Pierre Niney et Benjamin Laverne incarnent ce quatuor émouvant dans un film qui est à la fois intime et spectaculaire. L'autre star de l'Odyssée, évidemment, c'est la Calypso, oui, le navire mythique du commandant Marc Missonnier.
Alors il faut savoir que la Calypso, c'est un dragueur de mines fabriqué dans les années 40. C'est un bateau en bois. Et donc c'est des bateaux qui sont extrêmement dégradés et il ne restait que quelques exemplaires de ce type de bateau en état de naviguer. Et il se trouve qu'il y en avait un en Afrique du Sud, au Cap. C'était pas exactement la Calypso, il a fallu qu'on retouche un peu le bateau. À l'image, on a le sentiment que c'est la Calypso.
Nous allons développer notre activité de recherche ici à Marseille. Nous gardons bien sûr une équipe de scientifiques au musée océanographique de Monaco. Et quant à la Calypso, on va lui faire une petite jeunesse parce qu'elle sera sur les mers pendant les 3 prochaines années afin de tourner les 12 films que nous avons promis aux Américains. Et ça, c'est Philippe qui sera responsable du projet.
Les moteurs ne fonctionnaient pas du tout. Et on s'est retrouvé à quelques semaines du tournage avec un bateau qui certes ressemblait à la Calypso mais ne pouvait pas du tout naviguer. Et donc finalement, il a fallu se résoudre à engager 2 remorqueurs qui se sont mis de coup à tirer le bateau pour qu'on puisse tourner nos plans haute mer. Mais je ne sais pas si vous imaginez le bordel et le coup. Et donc en post-production sur le film, effectivement, on efface les remorqueurs. Mais évidemment, on aurait préféré naviguer sur un bateau en état de marche.
Jacques, je sais bien qu'il y a des gens qui disent que la Calypso est trop vieille, trop chère, qu'il faudra la vendre.
Qu'est-ce que tu racontes ?
Mais non, ben non, je le sais. Toi, tu cours partout dans le monde entier. Mais moi, je vis sur le bateau toute l'année avec mes bonhommes. Ce bateau, c'est chez moi, c'est ma vie. Je veux pas que ça change.
Audrey Tautou dans le rôle de Simone Cousteau. Alors, on imagine bien le gros bordel, hein, pour reprendre le terme employé par Marc Missonnier. Autre gros enjeu du film, Stéphane, les scènes sous-marines qui devaient montrer sous son meilleur jour le monde du silence si cher à Cousteau.
Et là, autre souci, le casting des requins.
On voulait pour cette séquence mettre véritablement les acteurs au milieu de requins. Et donc, comme l'essentiel du tournage se passait en Afrique du Sud, on nous avait assuré que à tel endroit de la côte sud-africaine, il y avait, à l'époque où on tournait, des requins de façon certaine, machin. Et c'était sûr qu'on allait avoir les requins, que l'eau était dans les bonnes conditions pour tourner cette séquence et tout ça et tout ça.
Là, là, je l'ai vu ! C'est un monstre ! C'est pas de mouvement brusque. Et surtout, surtout, ne pas les lâcher du regard. Bon, Philippe, tu m'écoutes ?
Oui, je t'écoute, mais ça fait 30 fois que je me dis la même chose de Bert, on a compris, là.
La cage sera à 6 mètres, comme puisse faire notre palier de décompression à l'intérieur, en sécurité. S'ils deviennent un peu trop agressifs, on se met dos à dos tout de suite et on ne s'éloigne pas de la cage, ok ?
Et non seulement l'eau est trouble, mais en fait les requins qui devaient être là ne sont pas là. Et ça dure, et ça dure, et ça dure. Et vous vous doutez bien que le compteur tourne, et ça coûte très très cher. Et au bout de 10 jours de tournage, ils n'avaient pas ramené une seule image exploitable. Et donc on a décidé d'arrêter. La seule solution, en fait, c'était de renvoyer l'équipe de tournage plusieurs mois après la fin du tournage aux Bahamas pendant 2 semaines, je ne sais pas si vous imaginez ce que ça coûte, pour tourner dans une eau absolument translucide et dans un endroit où, là cette fois-ci, on était sûr d'avoir des requins. Il n'y a quasiment pas d'effets spéciaux dans cette séquence et elle est, faut bien dire ce qu'il y a, à l'image, ça le fait, quoi.
Bon, alors on a compris que c'était pas simple. Vient un autre et le dernier morceau de bravoure de l'Odyssée, un tournage en Antarctique où jamais aucune équipe de film n'était allée.
Alors grâce aux observations satellitaires, nous avons pu partir d'Ushuaïa avec une fenêtre météo des plus favorables. Et nous nous dirigeons maintenant vers ces petites îles au nord de la péninsule de l'Antarctique. Îles réputées abriter une population extraordinaire de mammifères marins comme les baleines bleues, les baleines grises, etc.
On n'avait pas encore bouclé le financement du film, on n'avait pas encore la certitude qu'on allait réussir à faire le film. Christine de Jekyll, la productrice exécutive du film, est rentrée dans mon bureau et m'a dit « Si on veut tourner en Antarctique, il faut qu'on réserve le bateau ». Et donc, il fallait faire un chèque de 200 000 euros pour simplement 15 jours d'expédition. Mais on n'a pas le choix. Si on ne réserve pas le bateau, on ne l'aura pas et on ne pourra pas tourner en Antarctique dans nos dates.
Il y a plus de 30 ans, j'ai découvert un nouveau monde. Alors, j'ai voulu le montrer, j'ai voulu l'explorer, j'ai voulu le raconter. Et à la fin, j'ai voulu le conquérir. Alors qu'en fait, il fallait le protéger.
Mais il est encore tôt.
On avait évidemment restreint le nombre de places sur le bateau aux acteurs, à l'équipe technique réduite à sa plus simple expression, mais je m'étais réservé une place sur le bateau. Parce qu'évidemment, moi, je voulais partir en Antarctique. Et au dernier moment, j'ai eu un coup de fil de l'assurance qui m'a dit « Écoutez, là où vous allez, c'est impossible d'accès. Il ne peut pas y avoir de secours avant 48 heures. Donc, vous êtes obligé de prendre un médecin urgentiste à bord. » Et donc, la mort dans l'âme, j'ai dû laisser ma place à médecin urgentiste qui n'a absolument rien fait parce qu'il ne s'est rien passé.
Voilà, on aura compris. Un film compliqué.
Quelle odyssée, l'Odyssée.
Mais film magnifique. On y ressent vraiment le grand souffle de l'aventure et de la passion familiale. Revoyez ça ou voyez-le en DVD. C'est sorti chez Wild Bunch.
Avec la musique du fidèle compositeur, du réalisateur Jérôme Salles. C'est le double oscarisé Alexandre Desplat. Merci Stéphane pour cette plongée au cœur du film L'Odyssée. Vous étiez allé sur le tournage, je me souviens très bien du reportage que vous nous aviez ramené.
Les scènes des requins dont parlait Marc Missonnier, j'étais sur la fausse vraie Calypso.
Vous avez vu les requins et
les
baleines.
C'était
homérique.
Rendez-vous demain sur un autre tournage. Merci Stéphane. Notre pépite du jour, un des moments forts de ces 10 derniers mois dans Laissez-vous tenter, le 7 décembre, un document RTL, quelques heures après la disparition de Johnny Hallyday, le si pudique Jacques Dutronc avait accepté de se confier chez lui en Corse au micro RTL de Julien Fautra et de parler à sa façon, c'est-à-dire avec humour et beaucoup, beaucoup d'émotion, de son Johnny, sa vieille canaille, Johnny, son ami depuis plus de 50 ans.
L'homme, on a été mort déjà ensemble, hein, mais bon... Mort de rire, ça, sûrement. Mort de peur, oui, parce qu'en bagnole, on a fait quelques exploits. Mort de soif, ça, non, pas longtemps. Non, mais enfin, bon, non, c'est bien marré pour un tas de choses. Ouais. En tout cas, voilà, enfin, c'est bien triste. Et ce matin, j'ai appelé Eddy, bien sûr, qui est très peiné, très, comme moi d'ailleurs. Mais bon, moi, ça s'entend peut-être pas, mais ça fait rien. On est très touché par ce qui arrive. Bon, c'était prévisible, mais bon, comme un tas de choses.
Qu'est-ce que vous pouvez me raconter des derniers moments que vous avez passés avec lui?
C'est vraiment la tournée, hein. Ouais, où il était plein de projets, puisqu'il m'a demandé par rapport à... Enfin, il disait pas mal de choses assez étranges par moments. Il m'a dit, bon, je repars en tournée en 2018, tu viens avec moi, Jaco. J'ai dit, mais oui, bien sûr. J'allais pas lui dire autre chose, mais... D'abord, il avait une patate, c'est incroyable, quoi. Quel courage! Oh la vache! Il avait beau faire de la gonflette, enfin de s'entretenir les muscles, etc. Mais c'est à l'intérieur que c'était balèze quand même. Chapeau!
L'hommage de Jacques Dutronc à Johnny Hallyday sur RTL. Quel témoignage! Allez, on poursuit en douceur et en musique avec un duo choisi par notre fidèle Jukebox. Voici le duo du jour.
Puisque vous partez en voyage, puisque nous nous quittons ce soir.
Je vous avais promis de la douceur. On reste bien sûr en compagnie de Jacques Dutronc, ici en duo avec Françoise Hardy, couple culte et merveilleuse reprise de cette chanson de Mireille. On retrouve cette version sur l'album Clair Obscur de Françoise Hardy, sorti en 2000. À demain.
Vos bagages, marche avant côté du couloir.
À demain, Anthony Martin, avec toute l'équipe de Laissez-vous tenter pour une nouvelle mouture, bien sûr, de ce LVT de l'été.